RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, c'est parti pour les grandes gueules, pour 3 heures de discussion, 3 heures de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous nous rejoignez bien sûr au 32-16 pour prendre la parole. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère
bonjour
Zora,
à tous,
de la tribu de Zora.
Voilà, un petit parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps, je suis arrivé à la bourre, ils se sont moqués de moi, de ma coupe, de mon chemisier. Enfin voilà, j'ai été accueilli. Donc bonjour à la tribu et j'annonce que le Tour de France démarre le 20 juin et je serai à Saint-Raphaël pour la première étape de mon Tour de France et avec la tribu on est déjà 12 000 en peu de temps.
Ça fait du monde.
Ça fait du monde. Donc voilà, le 20 juin, rendez-vous à Saint-Raphaël. Allez-y vous inscrire pour participer à une rencontre avec moi.
Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, bonjour. Vous accompagne aussi aujourd'hui, le normalien. Bonjour Jean-Loup. Et puis, on a un participant aujourd'hui dans les GG, c'est une première. C'est l'homme créateur de contenu, suivi par 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux.
Sam Zira est avec nous. Bonjour Sam.
Bonjour, je suis hyper content d'être avec vous pour jouer ma grande gueule aujourd'hui.
Bienvenue Sam.
Merci beaucoup Zora.
6 millions de personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, créateurs de contenu. Pour ceux qui ne savent pas précisément, ça veut dire quoi Sam alors?
Créateur de contenu, ça veut dire que je suis animateur et producteur, mais en édition digitale. Et pour ma part, moi je suis spécialisé donc dans l'influence, la pop culture, la télé-réalité. Et depuis 2 ans maintenant, les interviews politiques aussi.
Pourquoi tu t'es mis aux interviews politiques justement?
Ça pique ça.
Tout est parti d'une influenceuse qui faisait de la prévention. Non, qui faisait pas du tout de la prévention, mais qui encourageait sa communauté à rajeunir son vagin. Elle s'appelle Maëva Guénam et c'est le député du Parti Socialiste, Arthur Delaporte, qui avait récupéré son discours pour en parler à l'Assemblée Nationale. J'avais trouvé ça extraordinaire. Je l'ai invité. Ça m'a plu, j'ai kiffé et tout a commencé comme ça.
Donc on te voit sur YouTube, sur Instagram,
sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook Watch aussi, de partout. Et j'espère que les réseaux vont s'arrêter.
Ils sont
là.
Fascinants ces jeunes.
Excusez-moi, ils sont fascinants. Seul ici à se demander ce que peut signifier la formule. C'était quoi?
Créateur de contenu.
Non, rajeunir son vagin.
Moi aussi.
Ah oui. Ça m'échappe un peu.
C'est de la chirurgie esthétique, mon cher.
Ok. Bon bah écoute.
Voilà. Alors après, ça m'échappe précisément. Bon. Je ne sais pas.
Voilà, okay.
Pendant une pause pub, on pourra se renseigner. Si okay.
Ils sont très créatifs, les jeunes.
Sam a dit qu'il nous expliquerait.
Oui, oui. Non, mais j'ai vu passer. Je sais de quoi il parle.
Et... Ah bon?
Bah oui, j'ai déjà vu passer. Oui,
toi, t'aimes bien là, cette créativité des
jeunes. Oui, moi je les trouve. Voilà, c'est leur temps, c'est leur histoire, c'est leur période, c'est leur époque. Et on a tous eu des époques jeunes où on avait. Donc voilà, moi je trouve qu'ils apportent pas mal de fraîcheur un peu dans ce monde un peu.
De vieux.
Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est de se dire que t'as 6 millions de personnes qui attendent tes publications.
Ça
c'est ça qui
jeunes.
Est complètement fou, quoi.
Je suis le premier complètement surpris, mais je réalise aussi la responsabilité que j'ai. C'est important.
Tu fais très attention à ce que tu te poses, tu te fixes des limites, des lignes, bien sûr.
Ouais, bien évidemment, mais comme vous, hein, je pense. C'est-à-dire, c'est trouver la limite entre la liberté d'expression et à partir de quand un discours.
Avoir
doit,
les bonnes
doit,
influences, c'est-à-dire celles qui permettent aux jeunes de mieux vivre, de. Voilà.
Ben, parler de sujets de société,
mais
parler de sujets qui importent les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça passe par la
important.
Santé, l'éducation, l'orientation. Et je me suis rendu compte, en fait, que les sujets que je traitais étaient des sujets politiques.
Bah oui.
Et tout est politique.
Bah oui, tout est politique, finalement.
Bah justement, allons-y gaiement.
Ah bah on va voir.
En parlant
alors là,
des violences d'après
là,
match.
Là, c'est créateur de GG, de
tu
contenu
sais pourquoi
de GG.
On va parler de la présidentielle 2027. Est-ce qu'il y aura un candidat à gauche au second tour? On aura Manuel Bompard aujourd'hui, le coordinateur national de la France Insoumise, comme invité à 11h. Mais d'abord, revenons sur ce qu'a dit la justice aux émeutiers, tout du moins à ceux qui ont été interpellés et qui sont passés devant monsieur ou madame le juge. Tiens, un exemple, celui de Théo, il s'est retrouvé interpellé parce que mêlé à la foule, parce qu'il a déconné. Voilà ce qu'il disait à la sortie de la comparution.
J'aurais dû écouter mon père et ma femme, parce qu'ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça n'a pas loupé. Et je regrette largement parce que j'ai pas eu mon fils pendant 4 jours, donc là je suis pressé de rentrer d'aller le voir, quoi. Quand vous voyez 8 policiers cagoulés avec des matraques et un bouclier, ça fait peur. J'aurais craqué quelques fumigènes, mais pas pour blesser des gens. Ni les forces de l'ordre, ils sont pas là pour être blessés non plus. Je vous dis clairement, j'ai eu peur de partir en prison et c'était ma première expérience, mais je pense pas recommencer, je vous le dis tout de suite.
Il en fait
infractions à la justice, dont 34 en comparution immédiate et 39 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Alors, on a eu des amendes, des peines avec sursis, de rares peines de prison ferme, mais aménageables. Donc au final, personne derrière les barreaux. Et c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre les mots très durs qui ont souvent été employés dans les réquisitoires contre ces jeunes et les peines prononcées. Rappelons que depuis la loi Belloubet, en dessous d'un an de prison ferme, on propose systématiquement des aménagements de peine, c'est-à-dire par exemple un bracelet électronique. On sait qu'il y a trop de monde dans les prisons, et d'ailleurs c'est un peu dérangeant parce que on a l'impression qu'on ne condamne plus en fonction de la gravité de ce qu'on a fait, mais parce qu'on a un parc immobilier à gérer en fait et qu'on n'arrive pas à le gérer. Alors est-ce que tout cela va dissuader ces jeunes et moins jeunes de ne pas recommencer la prochaine fois si le Paris Saint-Germain remporte une troisième Ligue des Champions? Est-ce que c'est dissuasif,
Zora?
Je suis encore étonnée de voir que le degré de violence, puisqu'en fait les réseaux apportent énormément de vidéos, il y a des scènes absolument incroyables. Ouais. On se demande si ça a vraiment existé. Non, ça recommencera parce que forcément, d'abord ça se reproduit tout le temps, et deux, les réponses, elles sont à la hauteur de notre capacité à punir, c'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité à punir. D'abord parce qu'on gère en quota de places en prison, et puis moi, je pense que par exemple, comme le jeune qu'on vient de voir passer et d'autres, bon, on les met au milieu de narcotrafiquants, de délinquants et de pédocriminels. Je pense pas que ce soit une réponse adaptée, mais quand même. Mais n'empêche qu'il y a pas, on peut pas avoir de réponse. Il y avait je ne sais combien de jeunes sur les différents lieux, mais il faut voir comment ils se comportent. Je veux dire, on a le message, il est zéro. Naël, c'était zéro. L'année dernière, c'était zéro. Là, c'est zéro. Il y a pas vraiment de réponse qui devrait dissuader. Je vois pas pourquoi un jeune recommencerait pas. Lui, celui qu'on vient de voir, oui, peut-être parce que c'est sa première. Il s'est retrouvé à faire l'idiot par hasard, entraîné par la foule, comme dirait l'autre. N'empêche qu'on est tous responsables de nos actes. Mais la réponse, elle est si on met les 25 en garde à vue en prison, est-ce qu'il y a de la place? On en est là, quoi.
Ou alors, on n'a pas chopé les bons, aussi.
Ceux qui courent moins vite.
Je ne sais pas, parce que beaucoup avaient des casiers. Alors, certains étaient déjà connus pour des affaires.
C'est très
stupéfiants, de vol.
C'est compliqué, parce que
c'est des mouvements... D'autres avaient des casiers
vierges. Mais oui, c'est des mouvements de foule.
C'est des mouvements de foule. C'est difficile d'attraper les...
Sam, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'on a été là, on a assisté à une hystérie collective, un emballement collectif hyper polarisé, comme on le voit sur les réseaux sociaux, où c'est les émotions qui priment. Après, moi, je pense que les réseaux sociaux, ils sont pas responsables, dans le sens où si on se remémore 1998, il y avait déjà de la casse, il y avait déjà des débordements. Ouais. Les réseaux sociaux, en fait, ils font juste exacerber, ils créent cette hystérie collective aujourd'hui auprès des jeunes.
Sur toutes les scènes, on les voit, ils ont leur portable quand même, tu vois, quand ils pètent l'abribus, quand ils envoient des tirs de mortier, c'est
bien
aussi
sûr,
derrière.
Ils ont leur portable même quand ils sont aux chiottes aujourd'hui. Donc au final, le portable, c'est juste la continuité de leur main.
Oui, c'est vrai, c'est pas
faux. Oui, c'est pas faux, bien sûr que c'est pas faux. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu assez d'encadrement. C'est à chaque fois, on a le même discours, à chaque fois, on entend les mêmes constats. Pourquoi ça se passe toujours comme ça chez nous? Pourquoi il ne peut pas y avoir des fan zones? On le sait que ça va se passer comme ça. On a vu à quel point ça s'est bien passé pour les Jeux Olympiques et on n'est pas capable de faire ça pour
un match. Tu ne poses pas la question de pourquoi ça passe à Budapest et ailleurs. Ils ont des jeunes aussi. Ils ont des événements. Dans plein de pays, ils ont des événements. Pourquoi chez nous, tu as besoin d'avoir une horde de mômes qui viennent faire de la casse de manière opportuniste et qui s'en fichent totalement du foot, d'avoir gagné ou pas? En fait, tu es en train de dire « encadrons la racaille ». Faisons en sorte qu'il n'y ait plus de racaille.
Je suis pas en train de dire encadrons la racaille, pas en train de qualifier ces personnes de racaille. Oui. Ça peut être aussi des actes isolés. On l'a vu avec le jeune homme qui vient de parler à l'instant,
qui s'est laissé prendre lui.
Qui s'est laissé prendre par l'hystérie collective et qui a fait une connerie et il le reconnaît. Moi, je pense que il faut que ce soit beaucoup plus répressif. Voilà.
Ah oui, ça on
l'a
d'accord.
dit, Olivier l'a dit, s'il n'y a pas de peine de prison, il n'y en a aucune dans les réquisitions qui ont été faites.
Ça, c'est clair.
Désolé,
oui, je suis
mais
d'accord.
C'est évident que s'il n'y a pas les moyens qui sont mis, s'il n'y a pas des prisons qui sont construites, ça continuera. Le pays n'est pas respecté. Les forces de l'ordre ne sont pas respectées. Alors attention, il y a des dérives aussi, hein.
Oui.
Parfois du côté des forces de l'ordre. Mais dans l'ensemble, ce à quoi on a assisté est juste inadmissible pour répondre à la question.
Jean-Loup Bonamy, pas de personne derrière les barreaux. Qu'est-ce que tu en dis?
Tiens, tu veux une citation de Nietzsche pour bien commencer la matinée?
Avec plaisir. Il joue dans quelle équipe?
Arsenal. Donc, bon, pas une très bonne soirée pour lui. Non, plutôt une équipe allemande, je pense. Donc, plus exactement, notre ami Nietzsche a dit, la faiblesse inspire la haine. Voilà, la faiblesse inspire la haine. Donc, tu as des images qui ont fait le tour du monde, qui ont été une humiliation pour la France, aussi bien chez nous qu'à l'étranger. L'image est consternante. T'as un discours, voilà, où on brasse de l'air, où on fait des grands gestes avec les bras. T'as un discours de fermeté, et en fait, tu te retrouves avec un bilan répressif qui est totalement dérisoire. Et donc, bien entendu, que les émeutiers, quand ils voient ça, ils rigolent, ils méprisent la France, et même ils la haïssent. Ça nourrit la haine de la France. Voilà, la faiblesse nourrit la haine, et ça ne leur donne qu'une envie, qui est de recommencer. Par ailleurs, je ne veux pas être taquin, mais je croyais, après avoir entendu le président de la République, qu'on était censé faire face, par exemple, à l'international, à la Russie, par exemple, ou à je ne sais quel régime équipé d'une arme nucléaire. Je rappelle que donc la France, visiblement, on le savait déjà, n'est même pas capable, face à des mecs de 17 ans non armés, d'assurer la sécurité et l'ordre dans sa propre capitale. Là où, comme l'a dit Zora, dans tous les autres pays, on y arrive, tu vois. Mais la France, qui est censée justement s'opposer à toutes sortes de régimes, et vraiment trembler, l'armée française est là, eh bien la France n'arrive même pas sur son propre sol à assurer un minimum d'ordre public, et c'est en fait le seul pays au monde. Donc voilà ce qu'on voit. Et
donc ceux qui viennent casser savent pertinemment qu'il ne se passera rien.
Ils savaient que ça allait se passer.
Voilà. Et donc, parce que c'est toujours comme ça. Ils viennent tout péter.
Ils ont raison d'une certaine façon.
Ah, ils ont raison.
Pourquoi
tu t'en priverais comme il va rien m'arriver?
T'as vu ce qu'on vient de dire? T'as vu les chiffres annoncés par Olivier? Pourquoi t'irais pas casser?
Après, il y a aussi une histoire d'éducation. Parce que pourquoi t'irais pas casser? C'est aussi aux parents à faire le job.
Ah bah on va pas les chercher.
Il y a l'État, il y a l'école, évidemment, qui doit faire le job. Et ça doit, il doit y avoir des répressions aussi à ce niveau-là. Par contre, moi, je suis pas du tout d'accord avec le discours qui a été prononcé par le RN, qui était tu casses, tu payes.
Bah, c'est le discours de Attal.
Bah, en fait, non, mais c'est un discours. En fait, c'est déjà appliqué. Ça existe déjà. C'est juste qu'on est dans un état de droit. Non, et tu casses, tu payes. C'est pas en claquant des doigts, tu casses, tu payes. Je vais te sortir mon terminal SumUp. Allez, hop, t'as cassé, tu vas payer. Ça se passe pas comme ça ici. C'est tu casses, on t'identifie, voilà, on te juge, et après, normalement, t'es censé avoir une sanction. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction.
Oui, mais Sam a raison de dire qu'il faut quand même aussi responsabiliser déjà les auteurs et leurs parents. Il y a beaucoup de mineurs parmi les jeunes interpellés, effectivement, parce qu'on est toujours là, l'État ne fait pas ça, etc. Mais enfin, avant tout, un mineur est sous la responsabilité de ses parents. Alors après, il faut regarder, il faut faire du cas par cas, parce qu'il y a des parents qui sont un peu débordés, des parents qui sont démissionnaires, mais il y a aussi peut-être des parents qu'il faut un peu responsabiliser en disant, attendez, votre fils à 14 ans, qu'est-ce qu'il faisait sur les Champs-Élysées avec un mortier d'artifice? À un moment donné, il faut quand même questionner les
mais
parents.
Mais comme si on...
Il faut, non mais...
Mais oui, je suis d'accord.
Et être un peu plus dur.
Mais oui, mais comme si on découvrait... Comme si c'était nos premières
terrible,
émeutes.
Il faut apprendre aux parents...
Non mais comme si c'était parents, nos premières violences policières. Emmanuel Macron, l'année dernière, après le PSG, il a dit la même chose.
Exactement. On a Sylvain qui va intervenir.
Pour moi, il a redit la même chose un an après.
Sylvain, moniteur de conduite du côté de la Gironde, il est au 32-16. Bonjour Sylvain.
Bonjour les GG.
Alors, il y a de la prison ferme, mais il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Personne dort derrière les barreaux depuis hier. Qu'est-ce que vous en dites alors?
Moi je dis, de toute façon, concrètement, aujourd'hui, ça leur fait plus peur. En fait, ils vont faire quoi, 24 heures, 48 heures en garde à vue, ils vont sortir. Et prochain événement, comme ça va répéter, ça va recommencer. Et ça sera toujours les mêmes qu'on rechoppera, et ça sera toujours comme ça, en fait. Bon, ces gens-là, ils sont comme ça depuis leur plus jeune âge. Comme vous dites, 14 ans, c'est pas normal qu'on soit sur la rue à faire le con un samedi soir. Là, je suis désolé, moi, ma fille, elle a 14 ans. Si je la chope comme ça dans la rue, ça va lui faire bizarre, je peux vous garantir.
Ouais.
Ah ouais, non, mais l'éducation, déjà, par rapport aux parents, déjà, elle est où, quoi? Déjà, par rapport à ça.
Ben oui, c'est une vraie, question.
On voit les vidéos, mais moi, je vois ça, mais j'ai halluciné dimanche matin en voyant ça, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible, mais incroyable. On s'en prend sur des abris de bus, à des bus, à Bordeaux, à Pau, même. Moi, je viens de Pau, à Pau, pourtant, c'est pas une ville non plus super, à Pau, enfin, voilà, il y a des trucs, mais on se dit, mais où va-t-on? Et comme me disait Laura hier, j'ai écouté vite fait, on les chope, mais on paye, quoi. Je suis désolé. Alors, les parents aussi, mais c'est les parents, les jeunes, ils payent, je suis désolé, ils cassent, ils payent, point barre. Ouais. Ben, je sais pas, c'est...
Oui, mais enfin, ils ont ces jeunes de 15 ans, ils vont payer avec quoi leur argent de poche?
Mais non, les parents.
Foutre, en fait.
Bah oui, mais les parents sont souvent insolvables.
Olivier, c'est qui fait l'éducation aujourd'hui?
Ah ben non, mais Sylvain, je suis toujours le premier à dire que avant tout, c'est les parents qui sont responsables de leurs enfants avant toute autre personne. Ça va de soi. Mais oui, mais ça va de soi, sauf que l'institution souvent estime qu'elle est meilleure que les parents.
Je me souviens, Laurence Rossignol du PS avait dit il y a quelques années, les enfants sont la propriété de l'État, c'est à l'État de les éduquer. Voilà, c'est un peu la mentalité, quoi. C'est un peu, c'est-à-dire que les parents, ils existent pas du tout dans le paysage. On n'a pas vu une interview de parents. C'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'on.
On parle de très jeunes.
Moi, j'ai vu des appels au calme par des mamans sur les réseaux sociaux. J'ai vu même des imams faire des appels au calme. Bon, j'ai pas vu de rabbin ni de curé, mais j'ai vu quand même un imam faire un appel au calme. Des mamans, des papas, des jeunes. Mais c'est vrai que dans l'État, dans les informations, etc., dans les infos.
Mais on parle jamais de
Sylvain, des parents.
Sylvain, j'ai la petite question bonus là avant qu'on fasse une pause et qu'on continue de discuter au 32-16. Est-ce que tout ce qui se passe, ces événements, ça influe sur votre vote pour 2027?
Alors aujourd'hui, alors on se parle concrètement, moi 2027, je sais pas du tout, mais pas du tout pour qui je vais voter. Honnêtement, je
comme plein de Français.
Rien.
Voilà. D'accord.
Tout autour de moi et on voit partout.
Ce qui relativise tous les sondages qu'on publie.
Oui.
Les gens ne savent pas, ne savent plus.
Oui.
On ne sait plus.
Bienvenue au club.
Ok, c'était juste pour.
Bienvenue au club, Torah.
C'était juste pour savoir. Sylvain, je vous remercie d'avoir été dans les GG. On va continuer d'en discuter de cette cadre, cette violence. Comparution immédiate, personne derrière les barreaux. Et savoir si les réseaux sociaux mettent de l'huile sur le feu, quand même. Si ça pousse à casser parce que derrière. Tu as des images spectaculaires parce que tu fais des likes, parce que tu fais des vues, parce que tu es repris partout et parce que tu te mets en scène aussi. Et quelque part, tu deviens une espèce de héros de la casse. Il est 9h20, à tout de suite au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, il est 9h25. Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, est avec nous, tout comme Zora Bitton, cadre de la fonction publique, et notre invité surprise aujourd'hui pour passer ces 3 heures avec nous, c'est Sam Zira, l'animateur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans ces violences d'après-match que l'on voit régulièrement ou dans les scènes d'émeutes qu'il peut y avoir, est-ce que les réseaux sociaux ont une influence? Est-ce que les émeutiers en font davantage parce que on veut être la vedette du chaos? Écoutez ce qu'en disait le maire de Paris, monsieur Emmanuel Grégoire.
Dans l'immense majorité des cas, les gens ont vécu ça en famille, avec des amis, et c'était une fête extraordinaire. Et des incidents en marge des grands événements, ça fait des siècles que ça existe, c'est aussi leur médiatisation et peut-être aussi l'obsession de ces fauteurs de troubles qui viennent casser, qui se mettent en scène eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'emballement ou d'enchaînement et d'incitation d'une certaine manière à faire n'importe quoi.
Voilà, on fait n'importe quoi parce qu'on se met en scène sur les réseaux sociaux, t'es d'accord avec ça, Sam, ou pas? Tu deviens la vedette du chaos, quoi.
Non, mais quand on a une bonne éducation, très honnêtement, normalement, on n'est pas censé faire ça. Je suis désolé de revenir encore là-dessus, mais pour moi, tout part de là. Mais oui, de toute façon, c'est bien connu, les réseaux sociaux et les algorithmes sont extrêmement polarisants, c'est-à-dire qu'ils poussent les émotions qui sont extrêmes, qui sont très joyeuses ou qui sont au contraire très colériques. Et il y a toute une histoire d'algorithmes et de contacts aussi, parce que les contacts qu'on a, ça se passe souvent sur Snapchat, ça joue beaucoup dans cet emballement et dans cet engouement-là. Mais il a raison, Emmanuel Grégoire, je le disais tout à l'heure pour 1998, c'est pas nouveau, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour avoir des émeutes. Et moi, j'aimerais souligner également, c'est important je trouve, les jolies scènes qu'on a pu voir, notamment avec des jeunes qui chantaient à tue-tête avec une vieille dame ou qui aidaient des passants. Ça, malheureusement, c'est complètement occulté aujourd'hui à cause de ces débordements qui sont inadmissibles.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, Sam, mais on peut pas se rassurer en essayant de voir des choses positives. C'est comme si tu allais voir un médecin et qu'il te dit globalement, tu souffres d'une maladie grave, mais regarde, tu marches, tu... Elle est là.
Il n'aurait pas raison
parce que ça veut dire que tu vas pas soigner le mal.
Dire qu'on a conscience du mal.
En fait,
et qu'on a aussi conscience que c'est positif et qui fait du bien au monde.
Non, mais en fait, c'est trop facile. C'est trop facile parce que depuis des années, on se raconte des histoires. Le réel, lui, il ment pas et il est pas facho. Le réel, il a pas d'origine, il a pas d'ethnie, il a rien. Le réel, il est que depuis des années, de manière récurrente, il y a des jeunes, parfois de tous horizons, qui viennent créer des émeutes et des casses incroyables. Bien sûr. Ça, qu'ils soient 10, 50, 2000, 20, 500 000, c'est pas le sujet.
Et le réel, il est aussi politique. Oui. Il est aussi de diriger par l'exemple. Oui. Et quand on a des politiques qui disent tu casses, tu payes, alors que certains politiques, justement, eux, on devrait pouvoir leur dire aussi tu voles, tu payes, avec les emplois fictifs et avec toutes les conneries qu'ils nous font. Bah, pardon, bah, je suis désolé. Bon. Mais au bout d'un moment, quand on veut donner des leçons, quand on veut donner des leçons aux jeunes,
aussi que les politiques soient exemplaires.
Mais tout le monde doit être exemplaire, les parents, les politiques. Mais à un moment donné, tu peux pas dire aux jeunes, écoute, je suis le juge, écoute, alors compte tenu du manque d'exemplarité des politiques, compte tenu de l'absence totale d'éducation de tes parents, compte tenu d'une société raciste, etc. Et compte tenu de tout ça, écoute, je vais juste un petit peu te tirer les oreilles et tu recommenceras pas.
C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je suis pour la répression.
Oui, mais sauf que le raisonnement, il est que les règles.
Ce qu'il dit, Sam, c'est que, puisque je pense qu'il faisait allusion à Jordan Bardella et au Rassemblement National.
Tu casses, tu payes, mais tous.
Marine Le Pen.
Mais attends, disait la même chose.
Marine Le Pen a été condamnée en première instance. Est-ce que ces personnes-là sont les mieux placées pour dire tolérance zéro?
Mais elle est pas allée brûler des voitures porte de cinq clous quand même. Là-haut, on remet chaque chose à sa place. Elle a pas fait de la guérilla urbaine.
Tu casses, tu payes, tu voles, tu payes. Alors dans ce cas
aussi,
c'est
bien
pas
sûr.
Deux poids deux mesures. C'est valable pour
d'accord.
Tout le monde et aussi
d'accord.
Pour nos dirigeants.
Là-dessus, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Tu casses, tu payes, tu voles, tu payes. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la question, c'est des gosses entre 12 et 17 ans, 20 ans.
Excuse-moi, Erdogan, il doit être un peu corrompu. Ah bah il n'est pas exemplaire. Ça l'empêche pas de briser une émeute, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être exemplaire pour briser des émeutes.
En admiration pour Erdogan.
Oh là là, il n'y a pas besoin d'être exemplaire et de pas prendre dans la caisse. Il n'y a pas de briser une émeute.
Non mais attends, justement. Quel est le plus grave?
Mais une émeute, évidemment que c'est beaucoup plus grave. Ah bon, une émeute là.
Qu'un président pique dans la caisse de son propre pays, c'est pas grave.
C'est beaucoup moins grave qu'aller bombarder la police à coups de mortier et de brûler des voitures.
Vous savez, les racailles, elles sont pas que dans la rue. Hein. Les racailles, elles sont aussi parfois à l'Élysée, à l'Assemblée nationale.
Alors Jean-Louis, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, ça s'est passé dans la même ville, éventuellement même aux mêmes endroits. Je constate l'écart entre la répression du mouvement des Gilets jaunes, les personnes éborgnées, les mains arrachées, les coups de flashball et la répression des émeutiers. Je constate que, puisqu'on parlait de deux poids deux mesures, le gouvernement a ses têtes et ses chouchous et que les émeutiers de samedi rentrent visiblement dans la catégorie des chouchous du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui donne les ordres et que là, la répression a été infiniment moins violente que contre les Gilets jaunes et que quand on veut réprimer, visiblement avec les Gilets jaunes, on sait réprimer. Donc, je constate qu'il y a des consignes qui sont données. Bon, voilà. Tant que ça ne fait pas baisser le prix de l'immobilier à Paris, tout va bien. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi j'aimerais qu'on revienne sur la semaine dernière qui s'est déroulée. Ça a commencé avec les violences à la Baule, ça s'est poursuivi avec la canicule, les bouches à eau anti-incendie vidées, ça s'est poursuivi avec la vidéo du migrant syrien qui intimidait et menaçait des gens au pied de la Tour Eiffel, et ça se termine avec des scènes de guérilla urbaine à Paris et dans plusieurs villes de France, en province, qui ne sont pas Paris. Je constate que, quand même, il y a peut-être un léger problème d'ordre public en France, avec souvent, quand même, des profils sociologiques similaires, quand même. Il y a quand même, voilà. Là, la tendance longue sur la semaine qui vient de s'écouler, elle est quand même pas terrible en termes de bilan sécuritaire, avec tous les cas qu'on vient de citer.
C'est quoi ces profils similaires?
Pardon?
Ah, c'est beaucoup de jeunes.
Des jeunes qui ont un engagement délinquant régulier dans des faits de violence et de violence urbaine.
D'accord.
Et voilà. Tout
c'est ça les profils similaires.
Ouais, c'est ça. Bah, des jeunes délinquants, des racailles, la racaillisation de la société française.
Moi, j'ai vu une image, par exemple, un magasin d'Arty.
La racaillisation de la société française.
Ils sont torse nus en short, etc. Et ils sont,
avec des foulards, avec des kéfiers pour se protéger des gaz lacrymogènes et qu'on les reconnaisse pas.
Il y en a un qui dit, mais tes empreintes. Et ils sont, je sais pas combien dans le Darty en train de le piller. Il y a de tout. Il y a des jeunes, comme on a vu tout à l'heure, des jeunes qui étaient juste là et qui finalement ont participé. Ils ont jeté un pavé. Ils sont emballés. T'as des jeunes qui arrivent de banlieue et qui, eux, c'est de la casse d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils viennent exprès. Ça veut pas dire qu'il faut punir 90%
sûr,
des mômes qui n'ont rien à voir.
Je trouve qu'il y a certaines façons de s'exprimer qui peuvent stigmatiser.
C'est des racailles.
Oui.
Mais c'est eux
juste
qui se stigmatisent en brûlant des voitures.
Il y a certains propos, je trouve, certaines déclarations qui peuvent stigmatiser.
Non.
policiers stigmatiser des quartiers, des banlieues, de faire des généralités comme ça en disant les banlieues, je suis désolé, mais moi,
personne
si
n'a dit ça.
Ah bah si, j'en ai
des gens qui viennent de ces quartiers.
Moi, si j'habitais en banlieue, je me sentirais mis dans le lot, je me sentirais isolé, je me sentirais maltraité, je me sentirais humilié. Je trouve que c'est quand même un peu.
Adresse-toi aux mecs de ton quartier qui ont brûlé les voitures.
Les parents de banlieue, quand ils prennent les vidéos et qui disent la même chose et qui disent on en a marre. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle La punition des innocents. En fait, quand tu veux pas regarder le réel, tu punis les autres. Il faut regarder le réel et le traiter pour justement pas amalgamer les autres.
Mais pour regarder le réel, il faut pouvoir déceler et s'intéresser à ses profils, qu'est-ce qui est similaire dans ces profils. Parce que là, j'ai pas les caractéristiques.
Les gens n'osent pas nommer le réel. Or, c'est le réel qui permet de ne pas le nommer. Il permet à d'autres de fabriquer du fantasme. Moi, je viens de banlieue, je sais ce que c'est. Donc, la stigmatisation, elle vient du non-dit.
Le jeune homme qu'on a vu là, qui a parlé.
Théo, c'est une exception.
Théo, merci beaucoup.
Oui, mais il y en a plein comme ça.
Comment ça, c'est une exception? Moi, la question que j'allais poser, c'est je sais pas, il a la tête du stéréotype de personne auquel vous parlez.
Il y en a d'autres qui sont en CDI, qui ont des enfants. Il y a pas que lui, mais globalement.
Pourtant, c'est lui qu'on a montré. Mais,
par exemple, on prend les émeutes pour Naël. Bah là, c'est pareil. On aurait dû être répressif de manière à ce que l'ordre commence. D'ailleurs, on rend service à ces gosses. Quand tu punis pas. Tu condamnes. Quand tu punis pas, tu condamnes le gosse.
Qu'il ne faut pas punir. Je dis qu'il faut éviter les généralités trop simplistes.
Mais personne ne généralise. Tu peux pas généraliser puisque la réalité fait que tous ces gosses ne sont pas comme ça. Heureusement, faut être fou pour généraliser. Mais nommer n'est pas généraliser.
Mais raison de plus. Le problème, c'est que il y a deux discours qui se télescopent. À la fois, on nous dit, ce sont des minorités, c'est pas l'ensemble des jeunes. Et en même temps, malgré 8000 policiers à Paris et 22000 policiers dans toute la France, on est incapable à les contenir. S'ils sont pas nombreux, alors là, il faut souligner l'incompétence de ceux qui nous dirigent. Ou alors, il y a des consignes, effectivement,
voilà,
d'y aller mollo.
Des consignes.
C'est ce qu'ont dit certains syndicats des policiers en disant, allez-y mollo, parce que ce qu'on craint, c'est qu'il y a un des jeunes.
Je vais te répondre parce que le gouvernement ne veut pas voir les images qu'on a vues parce qu'il sait que c'est mauvais pour lui en France et à l'étranger. Mais en fait, le gouvernement a tout prendre. Préfère voir encore ces images-là que des images de la répression. Parce que le gouvernement a peur de la répression et il préfère plutôt que d'avoir un dérapage, plutôt que de dire, il y a des victimes du côté des émeutiers. Le gouvernement préfère encore voir Paris en scène de guérilla que assumer sa
peur de son travail. C'est la peur à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui aille, sur l'expression consacrée, qui aille au tapis.
Oui, voilà, c'est si ça, le gouvernement.
Tu appelles à une répression à la mode Erdogan ou salvadorienne.
Oh, oui.
Voilà. Donc si tu veux, derrière.
Tu sais que sur Twitter, j'ai tagué le président syrien Ahmed al-Shara. Je lui ai demandé des conseils pour tenir Paris. Je suis sûr qu'il nous donnera d'excellentes méthodes.
Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des exemples pour la capitale non plus, mon cher Jean-Luc.
Au moins, ça sera tenu.
Mais Karim veut intervenir dans les GG. Il est du côté du Morbihan. L'ami Karim, conducteur de taxi, bonjour. Karim.
Bonjour.
Bonjour Karim.
Vous entendez bien Karim, ouais.
Oui, très bien.
Qu'est-ce que vous en pensez alors aujourd'hui? Est-ce que les réseaux sociaux ont envenimé la situation? Est-ce qu'il aurait fallu plus de fermeté? Dites-moi.
Complètement, depuis des années. Là, ce qu'on voit, ce que je disais à votre collègue, c'est que on retrouve ça dans toutes les villes de France. En fait, il y a un événement essentiellement sur Paris. Bon, il y a eu le match de Ligue des Champions. Tout le monde est content, mais la casse, elle s'est amplifiée dans toutes les villes.
Il y a eu 71 villes touchées par ces scènes d'émeutes.
Oui, parce qu'en fait, il y a un ego et en fait, on voit que dans telle ville, il y a ça. Et ben, nous, on veut faire pareil. C'est ce qui se dit.
C'est un peu le championnat de France de la casse.
Tout à fait. Eux, ils ont fait ça. Nous aussi, on va faire ça. On va montrer qu'on et en fait, c'est ça, c'est l'ego de.
Est-ce que les réseaux sociaux jouent alors un rôle important?
À 100%, en fait, c'est faire le plus de vues, c'est dire nous, dans notre ville, nous on fait ça, nous attention, on est dangereux, nous on fait ça, en fait. Ils s'en foutent du match.
C'est un peu comme les voitures qu'on incendie le 31 décembre.
Allez-y.
C'est tout à fait ça. C'est qu'il y a une violence, même urbaine, et on va retrouver dans une ville qui n'a rien à voir avec. On va parler peut-être de
ça. Mais oui, parce que sincèrement, Karim, vous avez raison, moi j'étais.
Faire des vues, c'est de l'ego, j'en signe des jeunes, ça fait. En fait, on parle des quartiers, tout ça. Enfin, les quartiers, c'est plus ce qu'il y avait dans les années 80. Là, on a affaire à des jeunes ultra-libéralistes, en fait.
Je suis d'accord avec vous, Karim, parce que j'ai été surpris de voir qu'à Clermont-Ferrand, à Niort, à Montluçon, où quand même les Parisiens sont pas majoritaires, il y a eu des incidents.
J'interviens. C'est peut-être lié au fait que, notamment depuis les émeutes de 2005, donc depuis plus de 20 ans, on a construit des cités partout en France et que donc le phénomène se diffuse sur l'ensemble du territoire. Et tu fais quand on parle du narcotrafic, tu nous dis il y a des points de deal dans n'importe quelle sous-préfecture en France. Bah, il y a peut-être un rapport entre le fait qu'il y ait des points de deal à Clermont-Ferrand et des violences urbaines à Clermont-Ferrand. Et c'est peut-être quand même un peu le même public.
Mais Karim, justement, qu'est-ce qui a changé chez les jeunes, selon vous, alors?
Non, mais c'est les raisons, en fait. C'est vouloir faire le plus de buts, ça marche. Ça fait parler de soi. C'est l'ego des jeunes. On n'a pas
mais
les
mêmes. Mais le pire, Karim, c'est que.
De maintenant, il y a pas. Les castes, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu dans n'importe quelle origine, dans n'importe quel milieu. Il y en a eu. À l'époque, il y avait des concerts de Johnny Hallyday, il y avait des castes. Des concerts de rap, il y avait des castes. On en parlait un peu moins. Maintenant, on en parle de plus en plus en stigmatisant après une origine, en stigmatisant une religion. Alors, ça, c'est ce qu'on. On est obligé de rajouter ça à chaque fois. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. C'est vrai que les cas, c'est nul, c'est moche ce qui se passe. C'est un match de foot, ça termine en guérilla urbaine avec des morts, malheureusement, des jeunes. Des casses, voilà, il y a de tout, malheureusement. Mais pour moi, la principale cause, c'est les réseaux sociaux, la télé-réalité.
Réseaux sociaux, tu es d'accord avec l'accusation que porte Karim? Pour lui, la principale cause aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, Sam.
Ah bah pour moi, la principale cause, non, c'est pas les réseaux sociaux. Pour moi, la principale cause, c'est
l'éducation.
Désolé, mais il y a quelqu'un qui est chargé de ce poste-là. Hein. On a une ministre, un ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Plus long le titre, on n'y comprend rien, d'accord? Mais au bout d'un moment, il faut quelqu'un. On n'arrête pas de parler des réseaux sociaux. Alors c'est peut-être nécessaire d'avoir quelqu'un justement qui encadre, qui s'occupe des réseaux sociaux, parce qu'on dit tu voles, tu payes. Mais il faut d'abord identifier. Et donc on peut identifier au niveau des réseaux sociaux. On peut retrouver avec l'adresse IP les auteurs
casses. Alors, les policiers se servent beaucoup des images qui sont filmées dans ces manifs, etc.
Mais ça c'est une mine d'or pour retrouver ces personnes qui ont posté sur Snapchat, qui ont posté sur TikTok. On peut retrouver les identités. Donc je suis désolé, il faut beaucoup plus de répression aussi au niveau des réseaux sociaux. La violence, elle n'est pas que dans la rue. La violence, souvent, elle commence ici.
Mais à quoi sert ce qui est drôle, c'est que les jeunes qui filment, ils ne sont pas en train de casser. Ils filment ceux qui sont en train de casser. Donc, c'est les jeunes qui filment, qui balancent à la police les clichés.
Sans s'en rendre compte,
en fait.
Il y en a qui cassent et qui se filment.
Oui, d'accord.
On l'a dit.
Oui, mais en général, par exemple,
ils filment leurs copains.
Voilà, ils filment leurs copains. C'est hallucinant. Et je me dis, mais le degré de bêtise de ces gosses.
Oui, c'est fini. Merci, Karim, d'avoir été.
Il y a les réseaux sociaux dans les autres pays. Il y a les réseaux sociaux.
C'est ce que j'allais dire à Budapest.
Voilà, en Pologne, en Hongrie, il n'y a pas eu d'émeute. Alors qu'il y a des réseaux sociaux au Japon, il n'y a pas de ce genre de scène au Japon.
Que les réseaux
dans
sociaux.
Beaucoup de pays du Maghreb aussi,
il y a des réseaux sociaux, il n'y a pas d'émeutes comme ça au Maroc. Voilà.
Est-ce que les réseaux sociaux ont mis de l'huile sur le feu, oui ou non? On va voir, la question est posée justement sur ces réseaux sociaux. Et vous dites oui à plus de 78%. Dans un instant, avec Zora Bitton, Sam Zira et Jean-Loup Bonamy, ce sera le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les grandes gueules, il est 10h moins 20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. À ses côtés, c'est notre invité du jour. Il fait les 3 heures face aux grandes gueules. C'est l'homme aux 6 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est Sam Zira, l'animateur, le créateur de contenu, qui est avec nous. Et Zora Bitton nous accompagne. Zora, qui est là.
Aux 6 millions de vies, d'ailleurs, elle est là depuis 10 ans.
c'est vrai, plus de 10 ans, l'ami Zora qui nous suit. On y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas à 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Céline Dion qui annonce 10 nouvelles dates à Paris en mai 2027. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Sam?
On s'en fout pas du tout. Je veux ma place.
Jean-Loup.
Ah, je m'en fous complètement.
Ah bon?
Zoma. Vive le Québec libre.
Je m'en fous, on va laisser
vive
ça.
Vive le Québec libre.
Bon, 10 nouveaux concerts à la Défense Arena, donc afin de répondre à la demande sans précédent des fans, annonce l'équipe de la Star dans un communiqué. Et pour les déçus donc de la première vague de concerts, des préventes seront proposées dès demain et jusqu'à vendredi à un nombre limité de fans, hein, déjà inscrits sur les plateformes de billets. Mon cher Sam, tu n'as pas de place encore.
Non, j'ai pas de place encore. Eh ben écoute, je vais tenter ma chance pour les 10 prochaines dates qui ont été communiquées. Après, moi, même si je suis pas fan de Céline Dion, j'ai conscience quand même que Céline Dion, elle est un peu l'équivalent de la Tour Eiffel. Elle fait partie du patrimoine et c'est pas pour rien qu'elle a chanté sur un des étages de la Tour Eiffel aux Jeux Olympiques. Par contre, moi, j'ai un coup de gueule sur la tarification dynamique. Ben oui, je trouve que c'est un manque de respect justement pour tout son public et pour tous les fans. J'ai essayé moi les 18 premières dates, les billets passaient de 400 euros à 750 à des kilomètres justement de la scène, même pas pour les packs premium. Et ça, je trouve pas ça normal parce que quand on se dit une chanteuse populaire, on applique. Certes, soit on dit ok, ça va être 900 balles la place, mais on dit pas vous avez des places à partir de 150.
900 balles la place, ça va pas.
Non, mais on dit pas vous avez des places à partir de 150 et après vous allez payer 1040 la place. Ça, je trouve que c'est moralement pas honnête.
Ça, je suis assez d'accord.
C'est la tarification
aussi, j'ai essayé d'avoir des places. Et je comprenais pas ce système où tu avais trouvé donc un siège et 10 secondes après ton siège à 500 balles passait à 750.
C'est parce qu'il était parti ton siège. Et donc tu te retrouvais avec des places plus chères.
Moi je préfère qu'elle me dise mais tu vas payer 900 balles. Voilà,
les organisateurs démentent ce système de tarification dynamique. C'est un peu flou.
Et aux États-Unis ça atteint plusieurs milliers de dollars.
C'est vrai que c'est vis-à-vis des fans, c'est pas très.
C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Américains préfèrent payer un billet d'avion et venir en France, où la place leur revient finalement moins cher que s'ils les y assistaient aux États-Unis.
Quand t'es là-dedans, est-ce que tu vois quelque chose quand t'as payé 900 balles et que
tu regardes les écrans, t'es en haut et tu regardes les écrans,
900 balles,
en haut de la salle.
Pas bien placé près de la scène, il faut pas payer. Hein.
Exactement.
Tu vois ce que je veux dire.
Il y en a qui veulent y aller juste pour l'ambiance aussi.
Bon, t'aimes bien te faire arnaquer, oui, vas-y.
L'artiste peut refuser cette tarification.
J'ai pas osé le dire,
mais. Tu as raison, oui. Mais bon, il est gagnant dans l'histoire aussi, quoi, si tu veux, voilà.
Bon, les GG, la victoire du PSG samedi soir, deuxième étoile sur le maillot et la tentation de la récupération politique trop forte pour nos élus ou anciens élus, tiens, comme Dominique de Villepin par exemple, qui souhaite gouverner la France comme Luis Enrique entraîne le PSG.
Heureusement.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Sam?
On s'en fout complètement.
Zora?
On s'en fout pas.
Et l'ancien Premier ministre, quasi candidat à la présidentielle, développe sur son compte X avec ses deux règles simples, dit-il. La première, jouer collectif. La seconde, insuffler un nouvel esprit, remettre chacun dans le mouvement, occuper sur tout le terrain et soutenez-vous. Voilà, c'est ce que dit, c'est ce qu'écrit Dominique de Villepin sur le réseau social. Pourquoi tu ne t'en fous pas?
Il est meilleur dans ses conférences au Qatar qu'apparemment pour avoir une ambition pour la France. Parce que franchement, heureusement que le ridicule ne tue pas, quoi.
Ah bon?
Bah oui, parce que considérer que, enfin, c'est un slogan en fait. C'est juste des phrases. Il y a rien. C'est De Villepin. C'est pas avec ça qu'il va être candidat. D'ailleurs, quand il est dans la shortlist des présidentielles, il est à 1 ou 2%. Enfin voilà, quoi. C'est creux. C'est vraiment les mecs qui se prennent à rêver et en pensant que ça va faire une influence de malade. Mais
est-ce qu'il a raison de récupérer la victoire du PSG?
Pour moi, deux choses. La première chose, sur le fond, c'est pas complètement absurde parce que justement, en quoi consistait ce type de management? Tu remarqueras que quand le Qatar a racheté le PSG, ils ont d'abord eu une stratégie pendant 10 ans qui était d'avoir des grosses têtes d'affiche. Beckham, par exemple, voilà, des stars qui payaient très cher, stratégie de la starification. Il y avait Neymar, voilà. Il y avait énormément de conflits, de tensions internes, de crises. Ça ne payait pas au niveau européen. Et là, avec justement ce nouveau style de management, on arrête de prendre des stars, on joue plus collectif, bah tu vois que ça change tout en termes de résultats. Donc sa remarque sur le fond n'est pas absurde,
oui,
parce
qu'elle
correspond quand même à une réalité. Bon. Et deuxièmement, je constate, on avait reçu Monsieur Bourgi il y a quelques semaines pour parler des statuettes de Dominique de Villepin. Moi, je constate qu'il y a quand même, clairement, puisque là tout de suite on crie récupération, pas le seul à récupérer, excusez-moi. Mais je constate qu'il y a une volonté de faire taire Dominique de Villepin parce que sa parole dérange, parce
qu'elle
froisse, certains intérêts.
Il n'a pas besoin qu'on le fasse dérange
certains crimes.
Il est venu dans les grandes gueules, mais on s'est moqué d'Edouard Philippe et de Gabriel Attal tout autant.
Mais je remarque.
scène fêtant la victoire du PSG.
Une cabale villepinophobe qui se met en place une petite
il
musique.
Il n'a pas besoin.
Parce que c'est une parole qui dérange.
Il n'a pas besoin, il pèse rien.
Pourquoi est-ce qu'elle dérange sa parole? Je comprends
mais
pas.
Mais il pèse rien.
Parce qu'il tape matin, midi et soir sur Israël, ça fait plaisir à Jean-Louis Bonamy.
Voilà, résumé de l'Église.
Parce qu'elle critique. Mais tu parles à Israël.
C'est vrai que taper sur Israël.
Mais c'est marrant, tu penses à Israël. Mais il y a aussi les États-Unis auxquels Dominique de Villepin s'était opposé en 2003.
Sur Israël.
Oui, d'ailleurs, c'est la nouvelle tendance.
Je rappelle que si tu soutiens Israël, tu finis encadré par deux policiers. Hein. Je arrive à certaines personnalités.
Alors, c'est vrai, mais tu as tout à fait raison, mais je te rappelle aussi que tu es sur le service public, comme Guillaume Meurice, tu perds ton emploi.
Oui, mais c'est une erreur.
Comme ici si tu es une humoriste comme Blanche Gardin, tu es blacklisté.
Mais moi, je suis pour la liberté d'expression.
Oui, on est d'accord. Nous sommes des défenseurs de la liberté d'expression.
Et la liberté d'expression, c'est justement la liberté d'expression.
Mais tu remarques que Meurice, Villepin, Blanche Gardin, tu remarques qu'il leur arrive des problèmes.
Oui, bah, il y en a d'autres ici autour de la table dans les grandes gueules qui sont embêtés même ici en interne parce qu'on défend des positions.
C'est vrai aussi.
Voilà. Donc il faut se battre en interne et à l'extérieur.
En tout cas, ils sont pas sous protection policière.
Bon. Il faudrait déjà trouver 11 ministres capables de se faire des passes sans se tirer dans les pattes.
C'est pas mal aussi.
Merci Sam. Juliette Binoche, les GG. Eh oui, elle rétropédale. L'actrice regrette l'emploi du mot fasciste par la tribune anti-Bolloré qu'elle a pourtant signée. Hein. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sam?
Non, on s'en fout pas. C'est important. C'est important de voir des artistes. Pardon, je développe après.
Ouais, Jean-Loup, je t'en fous pas.
Je m'en fous pas.
Et Zora,
on s'en fout pas.
Le terme fasciste dans la pétition était déplacé. Voilà ce que dit Juliette Binoche dans une interview à la Tribune dimanche. Elle déplore quand même en même temps à la réaction disproportionnée du directeur de Canal+, Maxime Saada, qui avait menacé, on le rappelle, de ne plus travailler avec les signataires. Sam.
Bah, c'est un petit peu risqué pour les deux camps. C'est-à-dire que d'un côté, ils pourraient travailler avec quasiment plus beaucoup d'actrices et d'acteurs. Et de l'autre côté, bah, ils ont peur de plus avoir de propositions dans des films ou de plus être mis en avant. Après, je pense que quand on signe une tribune comme celle-là et qu'on a autant de rayonnement et de visibilité, il faut vraiment faire attention aux moindres mots. Il faut assumer sa signature derrière. Le problème avec les tribunes, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui signent sans véritablement lire.
Moi je pense qu'elle avait bien lu hein, mais
moi aussi,
et peut-être même relu simplement oui je suis toujours je jette pas la pierre mais je suis toujours on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on aurait fait à sa place mais toujours stupéfait de la rapidité des êtres humains à retourner leur veste en cas de problème et à opérer des virages à 180 degrés y compris des fois de manière un peu ridicule. Alors, encore une fois, je jette pas la pierre mais parce qu'elle est pas la seule dans ce cas-là. Donc moi je pense que le mot fasciste n'avait absolument pas sa place ici, qu'il y a vraiment rien de fasciste chez Vincent Bolloré et que donc en effet c'était complètement absurde et quand même cette vitesse, j'ai vu aussi Jean-Pascal Zadi que j'aime bien, moi j'ai vu plusieurs de ses films que je trouvais très bien, mais la vitesse qu'ils ont à rétropédaler est quand même, après donner des leçons de résistance, dire oh là là, attention bah, Jean Moulin,
regardez les films conseils.
Mais ils les ont lus,
mais ils s'attendaient pas aux conséquences.
Dans un instant, François Ruffin, Marine Tondelier, Clémentine Autain, Jérôme Guedj, François Hollande, Olivier Faure, Bernard Cazeneuve et quelques autres, est-ce que la gauche sera au deuxième tour? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.